Décryptage, Marie Cazadebé.
Trois semaines après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, cette opération main propre en Algérie. Plusieurs hommes d'affaires parmi les plus grandes fortunes du pays ont été arrêtés et le patron du géant public des hydrocarbures limogé. Ils sont accusés de corruption, de malversation financière ou encore de non-respect des règles des marchés publics. Mais pourquoi sont-ils inquiétés maintenant, si vite après la chute du président Bouteflika? Et comment en réagit la rue, elle qui appelle depuis des semaines à la fin d'un régime et de ses pratiques? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Deux confrères avec nous en studio ce soir. Bonsoir Neila Latrousse.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef Maghreb Moyen-Orient au magazine Jeune Afrique. Et bonsoir Karim Yayaoui.
Bonsoir.
Vous n'avez eu que le couloir à traverser, hein, puisque vous êtes journaliste à France 24. Alors parmi les grands patrons arrêtés depuis le début du mois, on peut citer Issa Drebrab, PDG du premier groupe privé du pays, Cévital. Les frères Kouninef à la tête de l'entreprise QGC. Ali Haddad, propriétaire du premier groupe de BTP du pays. Et Abdel Moumen Ould Kadour, PDG de l'entreprise nationale d'hydrocarbures, la Sonatrach, lui, donc a été limogé, mais risque des poursuites judiciaires. Neila Latrousse, est-ce qu'on peut faire un lien entre toutes ces personnalités, un lien qui expliquerait qu'elles soient apparues comme ça sur cette liste de patrons à abattre?
À mon sens, il y a trois points communs entre tous ces hommes d'affaires. En tout cas, ceux qui sont à la tête du privé, peut-être que le cas de Monsieur Ould Kadour est à part, c'est que d'abord, toutes ces personnalités du privé sont des personnalités extrêmement connues par les Algériens, à l'exception des Kouninef, dont on connaissait le nom, mais pas forcément le visage, ou en tout cas l'étendue du pouvoir. Donc, il y a... Allez, disons, ça fait plaisir quand même à la foule algérienne, à la rue algérienne, que des gens aient à payer pour les dépassements du temps de ces 20 ans d'Abdelaziz Bouteflika. On ne sait pas exactement si ces gens-là seront condamnés, pas condamnés, mais en attendant, cela répond à une demande d'une partie des manifestants algériens. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'on est face à une justice qui, à certains égards, a quand même des petits relents populistes. Et ça fait plaisir, soit dit en passant à la rue, c'est-à-dire que les premières réactions ont été de dire, eh ben voilà, c'est bien qu'il y ait des patrons qui payent, parce que c'est vrai que ces gens-là se sont enrichis de manière suspecte. On ne sait pas si c'est illégal, mais en tout cas c'est suspect.
Et surtout que certains de leurs visages sont apparus dans les manifestations, notamment Ali Haddad, dont
Absolument.
On a pu voir le visage.
Absolument. Et le deuxième point commun entre tous ces patrons-là, c'est que c'est des patrons extrêmement politisés. Pour certains, très proches du camp d'Abdelaziz Bouteflika, qui ont financé les campagnes d'Abdelaziz Bouteflika, qui ont financé des campagnes législatives, municipales, sénatoriales de candidats du FLN, du RND, donc de la majorité. Issa Drebrab est un cas à part, puisque lui est un patron politisé, mais qui est plutôt dans le camp de l'opposition, donc qui a la capacité financière de soutenir des candidats d'opposition. Et le troisième point commun entre tous ces patrons-là, c'est que ils sont très liés à la presse indépendante. Ali Haddad, par exemple, a deux jours journaux privés et de télévision. Issa Drebrab, il a liberté, c'est un grand annonceur également de El Watan. On évoque parmi les hommes d'affaires qui pourraient être inquiétés Mahyedine Tarkout, qui a aussi une chaîne de télé, qui est aussi un gros annonceur. C'est vital. Permet à un certain nombre de télés privées également de faire entrer de l'argent. Donc, ils incarnent d'une certaine façon un contre-pouvoir, ou en tout cas un soutien à des contre-pouvoirs.
Karim Yayaoui, quelles sont ces pratiques finalement qui sont mises en cause? Donc, des visages bien connus, une foule d'Algériens et finalement qui se disent voilà, la justice est faite en partie. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? C'est quoi les types d'accusations en tout cas qui sont portées contre
eux? Pour les Kouninef, par exemple, c'est un fonctionnement extrêmement opaque. C'est une famille qui vivait entre la Suisse et l'Algérie. La Suisse où elle créait des entreprises aussi vite qu'elle disparaissait. C'est une famille qui incarne plus que tout autre le lien avec Abdelaziz Bouteflika. Même lorsqu'il était dans cette traversée du désert dont on a parlé ces derniers temps en Suisse, les liens étaient extrêmement étroits avec le père Kouninef. Et la famille a profité plus peut-être qu'aucune autre de l'arrivée au pouvoir de Abdelaziz Bouteflika. Alors par rapport à Rebrab, il y a tout de même des choses extrêmement différentes, parce que lui finalement a construit son empire en posant les premiers jalons dans les années 90, au moment où l'Algérie était en pleine guerre civile. Donc il n'a pas forcément créé des liens particuliers avec Abdelaziz Bouteflika, et d'ailleurs l'ancien président s'en méfiait énormément. Et donc, même si les deux familles n'ont pas grand-chose à voir, il faut souligner que pour Rebrab, la rue n'est pas forcément joyeuse à l'annonce de son arrestation, notamment en Kabylie. Il y a eu aujourd'hui des manifestations. Et il incarne pour les Kabyles une certaine forme de réussite, puisque c'est un homme qui a réussi à aller au-delà des frontières de l'Algérie et construire un empire en quelques années.
Ali Haddad, maintenant, donc premier propriétaire du premier groupe de BTP d'Algérie. Alors lui, il a été interpellé à la frontière tunisienne avec des devises non déclarées. C'était au début du mois. C'est finalement le premier grand patron qui a été inquiété. Lui aussi entretenait des relations particulières avec Abdelaziz Bouteflika.
Et avec Saïd Bouteflika en particulier, avec le frère d'Abdelaziz Bouteflika. Des liens extrêmement serrés avec Saïd. Il y avait une relation qui était extrêmement forte entre les deux hommes. Mais ces dernières années, on avait beaucoup soupçonné Saïd d'être celui qui tirait les ficelles plus que Abdelaziz.
Naïla Latrousse, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, j'ai oublié un point commun entre les quatre, c'est qu'évidemment, ils sont tous en détention provisoire, c'est-à-dire que le procédé qui a été choisi par la justice, c'était d'entendre, en tout cas par la gendarmerie qui mène ces enquêtes, ça a été d'entendre ces hommes d'affaires sur un certain nombre de volets judiciaires et de dire, en attendant le procès, eh bien, vous allez croupir en prison et on verra ensuite si vous êtes blanchi ou pas. Donc, de ce point de vue-là, ce qui est interroge également, c'est quand même ce procédé extrêmement spectaculaire, dans le cas d'Ali Haddad par exemple, ce qui lui est concrètement reproché par le procureur, c'est-à-dire la raison de son déferment à la prison d'Al-Arraj, c'est le fait d'avoir deux passeports. Lui dit, je les ai obtenus légalement grâce à une autorisation du ministère de l'Intérieur. Le procureur répond, on verra ça plus tard, mais en attendant, vous allez dormir en prison.
C'est quoi l'inquiétude en fait? C'est qu'ils disparaissent, ils auraient pu avoir envie justement de quitter le pays avec leurs capitaux, par peur d'être inquiétés?
Oh, je me garderai bien de faire ce genre
d'analyse. En tout cas, Ali Haddad a été rattrapé à la frontière.
Donc si je puis me permettre, avec 4 500 euros, ce qui, selon l'ordonnance de 2003, se règle en fait avec une transaction. Et par ailleurs, ce n'est pas le point qui lui est reproché par la justice, c'est le deuxième passeport. Je crois plutôt qu'on est dans des dynamiques, en fait, révolutionnaire que l'on a vu dans d'autres pays, c'est-à-dire que dans la Tunisie post-2011, il a fallu donner comme ça un certain nombre d'hommes d'affaires pour donner le sentiment que l'argent qui avait été pillé allait revenir dans les caisses. Soit dit en passant, 8 ans plus tard, un certain nombre d'entre eux ont été blanchis par la justice. Ça a été le même cas en Égypte post-2011 et en réalité, on est dans un procédé révolutionnaire qui se déroule comme il a pu avoir lieu ailleurs.
Un mot, Karim Yayaoui, d'Abdelmoumen Oulkadour. Alors là, on est dans un autre secteur. Évidemment, c'est le secteur public, celui des hydrocarbures. Il a été limogé. Est-ce qu'on peut là aussi voir un lien avec les patrons dont on vient de parler? Il fallait qu'il saute pour plaisir aussi à la rue.
En tout cas, il était à la tête de la Sonatrach qui a été traversée par une multitude de scandales ces dernières années. Je crois qu'il y a eu 11 patrons de la Sonatrach en 19 ans. Et lui était là depuis 2 ans. Finalement, c'est pas si mal par rapport à ses prédécesseurs. Et c'est vrai que la Sonatrach est le symbole de cet argent dilapidé de cette entreprise qui pourrait rapporter énormément d'argent, mais qui profite surtout à un certain nombre de cadres. Et puis il y a aussi dans la foulée l'ancien ministre de l'énergie, Chakib Khelil, qui lui aussi est inquiété par la justice. Il faut savoir que lui, un certain nombre d'accusations planaient sur lui dès 2013. Il avait même eu un mandat d'arrêt international, mais il avait été gentiment exfiltré vers les États-Unis. Et puis quand ça s'est calmé, il était revenu au pays. Et puis ces derniers jours, il a même pris le temps d'aller à la rencontre de Ben Salah, le président par intérim. Donc on sent bien que le contexte est particulier et c'est un contexte qui se prête à un espèce de sacrifice général des hommes d'affaires.
Alors cette série d'arrestations était attendue, presque annoncée. Ahmed Gaït Salah, le chef d'état-major de l'armée, avait prévenu que le ménage serait fait. Le 2 avril, jour de la démission d'Abdelaziz Bouteflika, il avait évoqué, je cite, une poignée de personnes qui ont indûment accaparé des richesses. Et voici ce qu'il disait le 11 avril.
La justice a retrouvé ses pleins pouvoirs et elle va désormais travailler sans entrave, sans aucune pression et sans directive. Le gang qui est incriminé dans des affaires de détournement de biens publics va être poursuivi en justice. Et afin que l'opinion publique soit rassurée, sachez que même les anciennes affaires criminelles et de malversation sont concernées. Et j'aimerais rappeler que je m'engage personnellement à appuyer les revendications populaires durant cette période importante. L'histoire me jugera et vous verrez que je n'ai aucune ambition personnelle. Ma seule volonté, c'est d'être au service de mon pays afin de garantir sa sécurité et sa stabilité.
Naïla Latrousse, la justice algérienne a-t-elle vraiment retrouvé sa liberté, comme le dit le chef d'état-major, ou répond-elle encore à des ordres?
Les ordres de qui? La question embarrasse hautement le chef d'état-major lui-même. Il a fait deux interventions dans les dernières 24 heures pour demander à ce que les procédures soient accélérées, pour assurer à un certain nombre de magistrats que l'armée les soutenait, qu'ils n'auraient rien à craindre, qu'ils ne seraient pas poursuivis. Alors on imagine comme ça aurait pu être le cas avant, ce sous-entendu-là est dans son propos. Et hier soir, le ministère de la Défense avait mis un communiqué extrêmement énervé contre une partie de la presse, l'accusant de tenir des propos diffamatoires, l'accusant de chercher délibérément à troubler l'opinion publique en expliquant que ça pourrait être des enquêtes politiques. Aujourd'hui, le parquet d'Alger a été contraint de clarifier sa position en disant on n'a subi aucune pression, etc. Donc on voit bien que, en tout cas, ne serait-ce que poser cette question, c'est embarrasser farouchement ceux qui aujourd'hui sont aux manettes en Algérie.
Karim Yayemou.
Alors on sent bien, justement, pour abonder dans le sens de ce que disait Naïla, que Gaït Salah est très embarrassé. Il suffit de regarder la teneur et la tonalité de ses dernières déclarations. Un coup, il est extrêmement virulent et on a le sentiment que c'est lui qui est presque le ministre de la Justice, en expliquant qu'il a donné des ordres pour que les affaires soient réglées le plus rapidement possible et pour qu'on n'oublie personne. Et le lendemain, peut-être après avoir eu le sentiment qu'il était allé trop loin et que certains le critiquent parce que finalement, au niveau de la Constitution, il n'est pas du tout dans son rôle, il a eu une tonalité un petit peu différente en expliquant qu'il était ouvert à entendre toutes les possibilités pour sortir l'Algérie de la situation.
Alors, à l'instant, justement, on l'entendait dire qu'il s'engageait à appuyer les revendications populaires. Vous l'avez dit, ce sont des décisions qui font plaisir aux Algériens. Il dit aussi ne pas avoir d'ambition politique. Karim Yayaoui, vous nous interprétez comment cette série d'arrestations dans ce sens-là, il n'y a pas d'ambition politique derrière?
C'est
difficile à croire.
Moi, j'ai le sentiment que depuis que les manifestations ont commencé, le dégagisme ambiant concernait aussi Gaït Salah. Et on voit bien que petit à petit, il abat carte après carte, les fusibles sautent et on a le sentiment que chaque vendredi, les Algériens continuent de réclamer toujours plus. Et donc, ces arrestations sont une tentative de calmer les ardeurs de cette frange de la population qui veut que tout ce qui incarne l'ancien système parte, Gaït Salah compris, ça fait partie de cette logique-là.
Naïla Latrousse, a-t-il des intérêts même personnels à voir ces hommes d'affaires s'éloigner? On prête à Ahmed Gaït Salah une haine envers ses patrons?
Vous savez, on parle beaucoup d'Ahmed Gaït Salah parce que c'est vrai que c'est lui qui incarne aujourd'hui l'état-major puisqu'il est à sa tête, mais il y a à ses côtés le chef de la gendarmerie, le chef du commandement terrestre, etc. Et globalement, en fait, dans cet état-major, on est dans une logique qui n'est pas farouchement pro-entreprise privée. C'est-à-dire qu'on considère que l'indépendance, la souveraineté de l'Algérie est garantie par l'armée qui soutient le peuple et que un certain nombre de patrons privés qui pourraient s'immiscer dans la politique en finançant des campagnes, c'est une transgression par rapport à ce que devrait être l'Algérie. Donc on est globalement dans cet état d'esprit d'une armée avec des prérogatives assez larges et qui effectivement a assez mal vu l'arrivée d'un certain nombre de grands patrons et notamment du privé dans le champ public, politique, porter un certain nombre de revendications, réclamer par exemple que au niveau d'un certain nombre de lois de finances, les taux d'imposition soient revus, que telle niche fiscale soit supprimée, etc. L'armée a estimé à ce moment-là que ces personnes outrepassaient leurs prérogatives. Donc effectivement, il y avait du ressentiment personnel, pas simplement de la part de Ahmed Gaït Salah. Aujourd'hui, pour montrer à quel point en fait l'armée considère que c'est vraiment son précaré, les enquêtes sont menées par la gendarmerie, pas par la police, pas par un parquet financier, pas par... On ne se repose pas éventuellement sur la Cour des comptes. C'est la gendarmerie qui mène les enquêtes de corruption et sur éventuellement la dilapidation des deniers publics.
Karim Yayaoui, sur cet intérêt personnel qui pourrait avoir...
Je précise, la gendarmerie qui dépend évidemment de l'armée.
De l'armée. Des intérêts personnels de voir justement ses patrons écartés, ça peut pas être, je sais pas, lui permettre d'avoir un peu la voie plus libre aussi pour la suite.
Alors, disons qu'en ce qui concerne Rebrab, c'est une façon d'écarter quelqu'un qui peut avoir une influence sur un éventuel candidat qui émergerait. Et si Rebrab était amené à le soutenir, évidemment, ça pourrait être un danger s'il y a un agenda caché de la part de Gaït Salah. Donc, C'est clair que c'est une façon aussi de donner l'impression qu'on lave plus blanc que de neutraliser tous ces hommes d'affaires, mais en même temps, on les neutralise aussi parce que ils pourraient jouer un rôle à l'avenir. Alors, pour revenir sur ce que disait Naïla, c'est sur cette animosité qui peut exister à l'égard des hommes d'affaires, il faut se rappeler aussi que le profil de l'oligarque, c'est quelque chose de très récent en Algérie. 1988, on parle souvent de cette date-là comme le printemps algérien avant l'heure, mais ça a été aussi la fin d'un système, un système qui était construit sur un modèle soviétique, socialiste, etc. Et finalement, ça a permis la mise en place d'un système capitaliste effréné. Et c'est à ce moment-là que les oligarques ont commencé à émerger. Il y a eu Mehri dans les années 90 et... Dans les années 2000, sous Bouteflika, ils ont pris une influence considérable. Et c'est vrai que l'armée la regardait toujours d'un mauvais œil.
Je vous propose maintenant qu'on fasse juste un petit crochet par Alger, puisque Ahmed Gaïd Salah évoquait les revendications de la rue. En voici quelques-unes recueillies par Amine Safar lors de la manifestation du 7 avril.
Nous, c'est toute la clique qu'on veut qui parte. Tout le clan, tous ceux qui gouvernent l'Algérie depuis l'indépendance, qui n'ont rien fait pour l'Algérie, qui l'ont sucé jusqu'au sang parce que ce sont des vampires. Il est inadmissible qu'en 2019, des jeunes qui ont fait des études traînent dans les rues en vendant des cacahuètes ou des parapluies et que les fils de ces nantis roulent en Ferrari, en Maserati, en Lamborghini.
Tout le monde dégage tout le système algérien depuis 62 à ce jour. Parce que tout le monde sont complices. Le peuple algérien, on demande dégage, dégage, dégage.
Alors du dégagisme, ça on l'a entendu, Ahmed Gaïd Salah fait partie des gens, a priori qu'il faut dégager selon les manifestants. Naïla Latrousse, est-ce que la colère pourrait être atténuée par cette série d'arrestations ou les Algériens ne sont pas dupes?
J'y crois pas. Un instant, cette purge, cette opération main blanche, elle agit un peu comme une catharsis, c'est-à-dire elle purge des passions. Sauf qu'en attendant, un certain nombre d'autres revendications ne sont pas satisfaites et surtout, l'horizon économique reste quand même assez bouché en Algérie entre une inflation qui devrait encore battre des records cette année en raison de choix macroéconomiques qui ont été faits et une contraction des investissements qui va se poursuivre en raison de l'inquiétude que tous ces événements suscitent et notamment à l'étranger. Donc je ne crois pas un seul instant que cette catharsis puisse à terme faire oublier que le réfrigérateur est vide, que le chômage est haut et que l'horizon politique et économique est instable.
Karim Yayaoui, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres gestes comme ça très forts et très symboliques prêtés donc par ces autorités de transition pour essayer de calmer la rue où rien ne passera tant qu'on ne décalera pas la présidentielle?
Alors ça va sans doute continuer puisque les médias algériens avaient évoqué une liste d'une dizaine de noms d'hommes d'affaires. Tout à l'heure, Naïla parlait de Takrout. Peut-être que ça sera lui qui sera le prochain sur la liste. On parle aussi de l'ancien ministre de l'énergie, Cheikh Khalil, qui pourrait avoir affaire à la justice. Donc ce processus pour tenter de calmer la rue va continuer. Mais on est dans une situation... où les Algériens, en tout cas une partie des Algériens, a le sentiment que Gaïd Salah s'entête sur la voie constitutionnelle, alors que eux sont dans une logique de légitimité et considèrent que ce n'est pas l'homme le mieux placé, le plus à même de mener l'Algérie sur ce chemin qui pourrait l'emmener vers les élections. Donc
aucune décision, aucune mesure finalement.
Ça va être très difficile de convaincre les Algériens que le chemin que eux voudraient voir ne soit pas celui qui émerge à la fin de ce processus.
Mais là, Latrousse, vous vouliez ajouter un mot, ce sera un mot de conclusion.
On voit une revendication qui tout de même remonte un petit peu, c'est de dire pour l'instant Ahmed Gaïd Salah dans tous ses discours a évoqué les corrupteurs, il n'a jamais évoqué les corrompus. Une partie de la rue commence à réclamer que soit vraiment fait le procès des années Bouteflika en convoquant notamment son frère, premier conseiller Saïd Bouteflika, qui pour l'instant est épargné par ses enquêtes.
Alors, et Bouteflika lui-même pour l'instant est épargné.
Alors ce seraient des gestes très forts, mais est-ce qu'on les verra de notre vivant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Naïla Latrousse donc du magazine Jeune Afrique, Karim Yayaoui, journaliste à France 24. Merci à toute l'équipe de décryptage. Il y avait ce soir Éléonore Krenik, Charles Mamère, Charles Barré et Hélène Avril à la réalisation. Merci à tous. L'émission est à retrouver sur RFI.fr et les réseaux sociaux. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité sur la Radio du Monde.